Bizarre. Vous avez dit bizarre? Avez-vous jamais entendu quelque chose de pareil, un livre qui débute par « et » Le premier mot est cette petite conjonction de coordination. Comme c'est bizarre. Mais pourquoi un auteur commencerait-il avec « et » Eh bien, dans le cas du livre d'Ézéchiel, ce « et » rattache les révélations des prophètes qui lui sont antérieures à celles que lui a reçues de l'Éternel. Par ce procédé littéraire, Ézéchiel dit qu'il est un maillon qui s'insère dans une longue chaîne de prophètes et de révélations. Avec Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel fait partie des grands prophètes, grands dans le sens que leurs écrits sont conséquents. En France, le nom Ézéchiel est rarissime. Je ne crois pas avoir rencontré quelqu'un qui s'appelait comme ça, mais je suppose qu'en Israël ou dans les milieux juifs, il doit être relativement courant. Ézéchiel signifie « Dieu fortifie », ce qui convient bien puisque ses écrits décrivent l'Éternel comme un Dieu puissant et glorieux. Ézéchiel est né en Juda dans une famille de prêtres aux alentours de 622 avant Jésus-Christ, soit au moment où le livre de la loi fut découvert quelque part dans le temple, ce qui fut suivi par une grande réforme religieuse sous l'impulsion du bon roi Josias. Mais ce dernier fut suivi par le sombre règne de Jéhoiakim alors qu'Ézéchiel a 13 ans. Il est probable qu'enfant, il fut le témoin du ministère de Jérémie, son aîné d'au moins 23 ans. À cette époque, ce sont les Babyloniens qui sont les maîtres du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Ils attaquèrent Jérusalem à 3 reprises. Jéhoiakim, vassal de Nabuchodonosor, se rebelle, ce qui déclencha la seconde attaque et le premier siège de Jérusalem. Sur ces entrefaites, Jéhoiakim, fils du précédent, monte sur le trône. Mais après seulement 3 mois de règne, il voit arriver le roi de Babylone en personne, ce qui le décide à se rendre. La ville est épargnée, mais sont déportés le roi ainsi que l'élite de la nation, quelques 10 000 personnes, parmi les plus influentes ou les plus aisées de la société de Juda. Ézéchiel, ainsi que son contemporain, qui deviendra le prophète Daniel, font aussi partie de la charrette. Le prophète Jérémie, quant à lui, reste au pays, mais sera plus tard entraîné de force en Égypte par une bande de loubards. Le roi Jéhoiakim est donc emmené à Babylone, où il moisira dans une prison pendant 36 ans. Daniel aussi atterrit à Babylone, tandis que la plus grande partie des captifs, dont Ézéchiel, sont déportés dans le sud de la Mésopotamie, sur les rives du Kébar, l'un de ces canaux qui reliait Babylone à l'Euphrate. La localité où ils sont s'appelle Tel Aviv, un nom charmant puisqu'il veut dire « colline des épis » et semble indiquer que la région était fertile. Aujourd'hui, Tel Aviv est en Israël, le nom d'un important centre urbain commercial et industriel sur la Méditerranée, environ 60 km au nord de Jérusalem. Il faut remarquer que les Babyloniens n'ont pas parqué les exilés juifs en plein désert, mais dans un coin sympa où ils vivaient libres, possédaient des maisons et des terres, formaient une communauté qui avait ses propres responsables et entretenaient même des relations régulières avec Juda, leur pays d'origine. Cependant, il ne leur était évidemment pas possible de retourner dans leur patrie. Les exilés composèrent un chant qui nous est rapporté dans le livre des Psaumes. Il commence ainsi. « Au bord des fleuves de Babylone, nous nous étions assis et nous pleurions en pensant à Sion. Au saule de leurs rives, nous avions suspendu nos harpes. » Étranger, au milieu d'une nation idolâtre, n'ayant pas de culte, sans lien religieux avec Jérusalem, le centre de la vie spirituelle israélite, les exilés couraient le risque de perdre rapidement la connaissance du seul vrai Dieu et par là tout espoir de restauration. Pour contrer ce danger, il était nécessaire qu'un prophète se lève du milieu d'eux. Tandis que les Israélites se morfondent sous un Saul pleureur, Ézéchiel voit la gloire de Dieu. Il reçut sa vocation de prophète alors qu'il a environ une 30aine d'années, l'âge auquel il aurait normalement dû prendre ses fonctions au temple de Jérusalem. Il exercera son ministère pendant une vingtaine d'années, ce qui, selon la loi, correspondait en gros à la durée de la vocation sacerdotale. Les Israélites le reconnaissaient comme un prophète authentique de l'Éternel, mais ne l'écoutent guère. Le ministère d'Ézéchiel se divise en deux phases très distinctes. Avant la chute de Jérusalem, il a dû s'employer, comme Jérémie, à détruire les illusions de ses compatriotes qui s'imaginaient qu'ils allaient bientôt pouvoir rentrer au pays, encouragés en cela par de faux prophètes. Au contraire, Ézéchiel annonce la destruction totale du royaume de Juda et la déportation de la majorité de sa population par les Babyloniens. Afin de préparer les esprits à cette catastrophe imminente, il montre que ce jugement est mérité en énumérant les crimes de Jérusalem comme l'idolâtrie, l'immoralité et la violence. Il tente ainsi de renverser l'attente chimérique d'un retour prochain des exilés dans leur patrie ou l'espérance, plus folle encore, d'une victoire militaire de Juda sur Babylone. Il montre ainsi que cette catastrophe est entièrement due au peuple rebelle et n'est pas imputable à l'impuissance ou à l'infidélité de l'Éternel. Il avertit aussi les exilés qu'ils doivent revenir à Dieu avant de pouvoir retourner dans leur pays. Après la chute de Jérusalem, les prédications d'Ézéchiel prirent une toute autre tournure. Aux censures succèdent les promesses. Il s'adresse aux résidus de croyants, devant le peuple humilié qu'il faut désormais préserver de l'abattement, il étale les perspectives du relèvement national. Il décrit la venue du vrai berger qui prendra la place des pasteurs indignes. Il annonce l'effusion de l'esprit et la conversion des cœurs, la théocratie restaurée et le triomphe de la nation ressuscitée sur tous ses ennemis. Entre ces deux phases très distinctes, avant et après la chute de Jérusalem, du discours d'Ézéchiel en est intercalée une troisième, qui se compose d'oracles dirigés contre sept nations païennes, la ville-état de Tyr et l'Égypte étant plus particulièrement dans le collimateur du prophète. Le livre d'Ézéchiel est celui de l'Ancien Testament qui a été arrangé avec le plus grand soin méticuleux. Presque tous les discours sont accompagnés de leur date à de rares exceptions près et sont placés dans un ordre chronologique. Tout comme Daniel, son contemporain, et l'apôtre Jean, Ézéchiel prophétise alors que le peuple choisi est en exil et les écrits de ces trois auteurs font partie du genre littéraire apocalyptique. Ézéchiel utilise une grande variété de procédés de communication pour faire passer son message et le rendre plus percutant. Alors qu'il est en état d'extase, il reçoit plusieurs visions fantastiques. Dieu lui ordonne aussi d'accomplir plusieurs gestes symboliques destinés à attirer l'attention d'un auditoire blasé, mais quand même étonné par les actes curieux du prophète. Ézéchiel utilise des métaphores très parlantes, des proverbes ou des dictons. Au lieu de raconter une parabole comme faisait Jésus, il la joue. C'est un virtuose de l'allégorie et il n'a pas peur d'employer un langage cru et choquant pour bien faire sentir l'horreur de l'inconduite morale et spirituelle des Israélites. Comme d'autres prophètes, il fait également usage de la lamentation satirique. Enfin, l'Éternel utilise un événement dramatique de la vie d'Ézéchiel, la perte de son épouse, en lui conférant valeur de signe pour la nation. Tous ces procédés didactiques contribuent à faire de ce livre un ouvrage vivant, original et attrayant. Parmi les thèmes théologiques abordés, les plus importants sont la puissance, la sainteté et la gloire de Dieu. La lumière resplendissante de l'Éternel est souvent évoquée et contrastée avec la sombre et méprisable culpabilité de Juda. Le prophète ne peut décrire ce qu'il voit dans ses visions que d'une manière vague et approximative, tellement la gloire de Dieu dépasse ce que l'on peut en dire. Ces révélations sont tellement fortes qu'elles laissent le prophète en état de choc. À la lumière de ces visions grandioses, le péché, et en particulier l'idolâtrie d'Israël, n'en apparaît que plus abominable, car c'est bafouer l'honneur de Dieu. La gravité de ce mépris de l'Éternel et de sa loi est à la mesure de sa grandeur et appelle un châtiment d'autant plus sévère et terrible. La plupart des jugements ainsi que quelques promesses de restauration sont ponctués par l'affirmation « Ils sauront que je suis l'Éternel » qui résonne plus de 60 fois dans le livre. Ézéchiel a vu la gloire de l'Éternel quitter le temple de Jérusalem, mais aussi y revenir dans le futur lointain au début du millénium. Il voyait au-delà de la misère et du jugement d'Israël la gloire du reste saint du peuple de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament comprenaient que l'affront subi par l'Éternel de la part du peuple choisi et des païens appelait un jugement, mais aussi que Dieu désirait sauver l'homme. L'apôtre Pierre écrit « Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. » Fin de citation. Ézéchiel est le plus mystique de tous les prophètes. Dans un sens, on pourrait dire qu'il est le prophète de l'Esprit de Dieu, alors qu'Ésaïe est celui du Fils de Dieu et Jérémie celui du Père. Ceci dit, il est bien entendu que ce qui concerne l'une des personnes de la Trinité engage forcément Dieu et les deux autres. On trouve dans le livre d'Ézéchiel d'autres thèmes théologiques importants, comme le ministère des anges qui œuvrent en coulisses pour accomplir la volonté de Dieu, l'enseignement que la responsabilité de l'homme est de rechercher la justice, et d'autres encore. Dès le début du livre, Ézéchiel nous fait le récit de sa vocation qu'il développe en détail. Elle commence par une apparition de la gloire de l'Éternel qui est sur son char et c'est cette vision qui lui ordonne de se consacrer au ministère prophétique. Ézéchiel doit remplir sa fonction dans des conditions très difficiles. Son rôle est celui d'une sentinelle dont la responsabilité est d'annoncer à ses auditeurs que le jugement est sur le point de tomber. Seulement, il est prévenu d'avance que les Israélites ne l'écouteront pas, mais qu'à cela ne tienne, il devra quand même les avertir du danger qui les guette. En second lieu, il est informé qu'il sera partiellement frappé de mutisme afin qu'il ne puisse pas consulter l'Éternel au nom du peuple ou intercéder en sa faveur. Il ne pourra donc que transmettre les oracles de Dieu. Être prophète de l'Éternel n'était pas une sinécure. Je commence à lire le livre d'Ézéchiel. Le cinquième jour du quatrième mois de la 30e année, je me trouvais parmi les déportés près du fleuve Kébar. Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions. Verset 1. Ézéchiel étant prêtre, il aurait dû commencer à exercer ses fonctions sacerdotales à l'âge de 30 ans. Or, cela lui est impossible puisqu'il est exilé très loin du temple de Jérusalem. Le fleuve Kébar était un canal relié à l'Euphrate qui se trouvait au sud de Babylone. C'est là, au bord de l'eau, que les Juifs se retrouvaient pour prier. Alors qu'Ézéchiel aurait dû pénétrer dans le lieu saint du temple, ce sont les cieux qui s'ouvrent à lui pour laisser apparaître le sanctuaire céleste. Je continue. Le cinquième jour du mois de cette année-là, c'est-à-dire la cinquième année de la captivité du roi Jéhoiakim. Verset 2. Ce verset et le suivant sont à la troisième personne du singulier au lieu de la première, ce qui montre qu'ils ont été rajoutés plus tard par les éditeurs des recueils des prophètes dans le but de préciser, par un événement marquant, la date un peu obscure du premier verset. Nous sommes donc en juillet de l'an 593 avant Jésus-Christ. Le roi Jéhoiakim était non seulement un mauvais roi, mais il n'avait régné que 3 mois. Pourtant, il était considéré comme le souverain légal d'Israël. 4 ans plus tôt, il avait été déporté par les Babyloniens en compagnie de 10 000 autres personnes, c'est-à-dire la noblesse, la majorité des prêtres et des artisans ainsi que les prophètes Ézéchiel et Daniel, comme je l'ai déjà dit. Je continue le texte. L'Éternel adressa la parole à Ézéchiel, fils du prêtre Bouzi, au pays des Chaldéens, près du fleuve Kébar. Là, la main de l'Éternel se posa sur lui. Verset 3. Le prêtre Bouzy est un personnage qui n'apparaît nulle part ailleurs, mais l'origine sacerdotale d'Ézéchiel a marqué toutes ses prophéties. L'expression « la main de l'Éternel » est fréquente dans ce livre. Elle désigne l'action de la puissance divine par laquelle l'homme est élevé à un niveau tel qu'il peut percevoir ou accomplir ce qui est au-dessus de sa connaissance ou de sa force naturelle. Les exilés se trouvaient à Tel Aviv, la colline des Épis. Cette région était éloignée de la capitale, ce qui fait que même si les prophètes Ézéchiel et Daniel se connaissaient de vue, il est improbable qu'ils aient pu se rencontrer en terre d'exil. Alors qu'à Jérusalem, la plupart de ces déportés, à l'exception des artisans, avaient les mains bien blanches, maintenant elles étaient devenues rugueuses à force de travailler la terre afin de subvenir à leurs besoins. Je continue le texte. « Je vis soudain un vent de tempête venant du nord » qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il y avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. Verset 4. Les deux versets précédents étaient comme une parenthèse. Maintenant, Ézéchiel continue le discours quand il a dit « Le ciel s'ouvrit et Dieu m'envoya des visions ». Ce qui va suivre est très difficile à interpréter, mais n'annonce pas quoi que ce soit qui corresponde à notre monde moderne. Jean Calvin en a dit « Si quelqu'un demande si la vision est lucide, j'avoue qu'elle est obscure et que je peux à peine la comprendre. » La vision d'Ézéchiel a beaucoup de points communs avec celle qu'a reçue l'apôtre Jean et qu'il décrit dans le livre de l'Apocalypse. Dans les Écritures, le vent de tempête, ponctué d'éclairs, est un ensemble de phénomènes qui accompagnent quelquefois l'Éternel quand il se révèle à l'homme. Un vent de tempête poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. L'énorme nuage, littéralement la nuée, symbolise la présence de Dieu quand il se rend visible, comme aux Hébreux dans le désert. Comme il l'a fait aussi dans le temple de Jérusalem ou encore lors de la transfiguration et de l'ascension du Christ. Les éclairs, littéralement une masse de feu, se dessinaient sur le fond sombre de la nuée en répandant autour d'eux un éclat éblouissant. Au milieu de cet immense disque lumineux se détachait un brasier, un foyer incandescent, semblable à du métal en fusion. Ce feu ardent à l'éclat d'un métal est une image de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, Ézéchiel est le seul auteur à évoquer Dieu de cette manière et il le fait à trois reprises. Les deux autres fois, c'est sa splendeur éblouissante qu'il décrit ainsi. Dans le Nouveau Testament, on lit que Dieu est un feu qui consume et qu'il est lumière, dans le sens moral. Quand l'apôtre Paul raconte sa conversion, il dit « J'étais en chemin et il était environ midi. C'est alors que j'ai vu venant du ciel une lumière plus éclatante que celle du soleil. » Fin de citation. Et dans l'une de ses épîtres, il décrit Dieu disant « Lui seul est immortel, sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir. » Et l'Éternel a dit à Moïse « Tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » Ici, le feu que voit Ézéchiel est une représentation de Dieu qui est particulièrement menaçante, car prête à consumer tout ce qui est souillé par le péché. C'est un présage des jugements à venir que le prophète va annoncer. Ézéchiel décrit ce vent de tempête venant du nord. Dans la mythologie babylonienne, le nord était considéré comme la demeure des dieux et lorsque le prophète Ésaïe décrit la chute de Lucifer, il situe l'événement dans le nord. Je lis le passage. « Toi qui disais, je monterai dans les cieux, je hausserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'Assemblée divine à l'extrême nord. » Le vent du nord évoque aussi le jugement parce que pour les Israélites, c'est de cette direction que venaient les envahisseurs. Mais dans la réalité spirituelle, le trône de l'Éternel n'est pas plus au nord qu'au sud, à l'est ou à l'ouest. Les points cardinaux désignent des lieux relatifs par rapport à un point fixe pour l'observateur sur Terre à l'intérieur de l'espace-temps, alors que Dieu et les anges ainsi que les âmes de tous les décédés se trouvent dans une autre dimension qui n'a rien de commun ni de comparable avec la création physique dans laquelle nous habitons et nous mouvons. L'homme moderne, surtout le scientifique, est comme ces fameux trous noirs qui dans l'espace engouffrent tout. Même la lumière, il ramène tout à lui et au monde matériel qui l'entoure. Mais en croyant que la partie émergée de l'iceberg, pour ainsi dire, est tout ce qu'il y a, cet homme souffre de cécité spirituelle. Son orgueil l'empêche de voir que le monde visible et tout l'univers ne représentent qu'une infime fraction de la réalité.